Aujourd'hui dans Affaires Sensibles, nous évoquons la longue marche des homosexuels en France pour leurs droits et pour la liberté de vivre comme ils l'entendent. Histoire collective et sociale, avec comme seule balise que tous les hommes naissent et demeurent libres et égaux, sans distinction sociale ou sexuelle, puisqu'il s'agit de cela. Histoire heureuse et tragique, mêlant les sourires aux larmes des disparus du sida. Histoire politique, où des députés ont dû porter parfois contre vents et marées les revendications d'une communauté de citoyens discriminés et pénalement responsables jusqu'en 1981. Oui, jusque-là, et aussi effarant que cela puisse paraître, être homosexuel en France était, en théorie, un délit. En seconde partie d'émission, nous recevrons Jean-Luc Romero, homme politique, aujourd'hui militant du droit de mourir dans la dignité. Il a fait ses armes à l'UMP avant de rallier les listes du Parti Socialiste lors des municipales de 2009. Il est depuis mars 2004 maire adjoint chargé de la culture et du tourisme du 12e arrondissement de Paris. Il est l'auteur de Homo Politicus, une histoire personnelle et collective du combat homosexuel en France. Affaires sensibles, une émission de France Inter en partenariat avec l'INA, préparée par Jean Bulot, avec l'appui des documentalistes de Radio France et de l'INA. Coordination Christophe Barrère, programmation musicale Thierry Dupin, reportage Gellor Van Vimersch, réalisation Jérôme Chélius et Coy Nguyen. À la technique aujourd'hui, Alexandre Chenet, Philippe Duclos.
Fabrice Drouel, Affaires sensibles, sur France Inter.
Il y a deux sortes d'homosexuels. Il y a d'abord ceux qui sont malades, puis ceux qui font ça pour de l'argent. Alors c'est déjà deux choses différentes.
Si on met deux hommes ensemble, ils ne pourront pas avoir d'enfants. Et déjà la France n'a pas assez d'enfants. Alors il faut absolument prôner la famille et faire une politique nataliste et non pas une politique pour les homosexuels.
Ils sont possédés par le diable.
Comment jugez-vous les hommes qui aiment les hommes?
C'est pas normal, c'est un vice, quoi.
Paraît-il que dans ma maison, il y en a.
Je sais pas, j'aime pas du tout, en tout cas. Franchement, pas du tout.
Homo, c'est nouveau, hétéro, c'est rétro. Homo, c'est nouveau, hétéro.
1971, 1er mai. Dans les rues de Marseille, à côté des syndicats et des travailleurs qui célèbrent la fête du travail, des hommes portant des masques blancs défilent. Dans d'autres grandes villes, d'autres masques apparaissent dans les cortèges. Au lendemain des événements de 1968, la sexualité devient une identité qu'on revendique et l'homosexualité un combat, un slogan, une revendication de la révolution politique en cours. Le tabou d'aimer une personne de son sexe s'effrite. Dans les chansons, les films et même parfois de façon subtile à la télé, l'homosexualité sort de la clandestinité. Des figures apparaissent alors, des porte-drapeaux pour toute une génération gay qui apprend dans les remous de l'après-68 à s'émanciper. En 1972, dans les pages du Nouvel Obs, on peut lire une lettre bouleversante de Guy Hockengame qui a pour titre « J'ai 20 ans et je suis homosexuel ». En quelques mots, il montre un chemin, une voie vers un combat homosexuel tranchant, révolutionnaire, provocateur si besoin. Dans le même temps, un autre homme, Jean-Louis Bory, ancien résistant, critique de cinéma, ouvre le même chemin, notamment sur l'antenne de France Inter, au masque et la plume, où sa voix porte ce militantisme homosexuel sans heurts et sans provocation.
Il faut accepter sa nature telle que l'on est.
Hockengame, Bory, durant 10 ans, ces deux hommes et leur engagement façonnent le mouvement homosexuel en France. La parole sur l'homosexualité n'est plus limitée aux médecins ou aux curés, mais investie par les premiers concernés, les homosexuels. Dans un premier temps, ils s'approprient la nuit ainsi que certains quartiers à Paris et dans les grandes villes. Ils descendent dans la rue auprès des féministes et des gauchistes pour réclamer de nouveaux droits. L'homosexualité politique est en route. C'est cette lutte que nous prenons en marche au début des années 80.
Chez les homosexuels.
Il y a deux sortes d'homosexuels. Il y a d'abord ceux qui sont malades.
Homosexuels.
Et ceux qui font ça pour de l'argent. Alors c'est déjà deux choses différentes.
Paraît-il que dans ma maison, il y en a.
Ça vous gêne?
Tel que l'on est.
Le 21 avril 1980, au journal de France 3 Centre, des militants du CUAR, Comité d'urgence anti-répression homosexuelle, alertent l'opinion sur leurs conditions.
Vous savez peut-être qu'il y a dans la loi française, depuis le régime de Vichy, des lois discriminatoires à l'encontre des homosexuels. Je veux dire que, alors que les rapports sexuels hétérosexuels sont autorisés à partir de 15 ans, pour les homosexuels, ce n'est possible qu'à partir de l'âge de la majorité, c'est-à-dire aujourd'hui 18 ans. Or, il semblait depuis quelques années qu'une un mouvement se manifester pour remettre en cause cette discrimination, et notamment le Sénat avait décidé d'abroger ces lois. Et malheureusement, vendredi dernier, à l'Assemblée nationale, les lois discriminatoires ont été rétablies.
Eh oui, incroyable d'entendre cela aujourd'hui, mais en 1980 et jusqu'à 1980, rappelons-le, répétons-le, l'homosexualité était un délit. Un an plus tard, le 4 avril 1981, de Maubert à Beaubourg, un cortège d'hommes et de femmes investissent les rues de Paris pour les droits et les libertés des homosexuels. Dans les articles de presse de l'époque, on s'amuse des regards des passants, surpris ou non par ce défilé bigarré. Sur des banderoles, on peut lire « Non à la pénalisation de l'homosexualité ». En tête de cette manifestation, on retrouve des figures homosexuelles, des écrivains, des personnalités, mais aussi des militants socialistes, comme Jack Lang. Quelques jours plus tard, François Mitterrand, candidat à la présidentielle, est invité à un meeting organisé par les femmes de l'association Choisir. Gisèle Halimi, qui dirige les débats, l'interroge clairement sur cette question. Si vous êtes élu, est-ce que l'homosexualité cessera d'être un délit? Le leader socialiste répond, sans hésitation, mais absolument, il n'y a pas de raison de juger de ce choix, c'est dans la loi de la nature, suivant les goûts, peu importe, le choix de chacun doit être respecté. Le 10 mai 1981, dans les bars des quartiers gays, on entonne la vie en rose d'Édith Piaf. François Mitterrand est élu président de la République. Le lendemain, un journal gay, le Guépier, G-A-I plus loin P-I-E-D, titre en forme de question, 7 ans de bonheur.
Le 21e siècle amènera une transformation profonde des mœurs, parce que je peux vous dire.
Dans la foulée de la victoire, François Mitterrand abolit l'une après l'autre les discriminations dont sont victimes les homosexuels. Dès son arrivée au ministère de l'Intérieur, Gaston Defferre annonce qu'aucune discrimination ou suspicion à l'encontre d'homosexuels ne sera désormais acceptée. Le 12 juin, le ministre de la Santé déclare que la France ne prend plus en compte la classification de l'OMS ciblant l'homosexualité comme une maladie mentale. En février 1982, une loi sur le logement, la loi Guillot, supprime pour les locataires la mention « en bon père de famille ». Oui, ça existait, « en bon père de famille ». Enfin, après de nombreux allers-retours entre l'Assemblée et le Sénat, Gisèle Halimi, devenue députée, épaulée par Robert Badinter, obtient le 27 juillet 1982 l'abrogation de l'alinéa 2 de l'article 331 du Code pénal qui interdit aux homosexuels d'avoir de relations sexuelles avant 18 ans alors que la majorité sexuelle est de 15 ans. Le soir même, Didier Varro, secrétaire général de la radio Fréquence Gay, réagit sur le plateau d'Antenne 2.
Alors Didier, je pense que cette décision est d'abord une grande satisfaction pour vous.
Absolument, c'est non seulement une grande satisfaction, mais l'impression d'une grande joie justement, puisqu'après les engagements de François Mitterrand, qui avait déclaré pendant sa campagne électorale que l'homosexualité ne devait plus être considérée comme un délit, c'est une grande victoire, ça n'a pas été sans mal, il faut bien le dire. Il a fallu en passer par cette navette parlementaire, mais aujourd'hui nous sommes tout à fait heureux et nous ne regrettons pas d'avoir soutenu François Mitterrand et le Parti socialiste.
Donc plus de discrimination légale.
Plus de discrimination légale, et je crois que là il faut encore une fois rendre hommage au comité d'urgence anti-répression homosexuelle qui depuis 3 ans, même un peu plus maintenant, a fait un travail énorme, et c'est grâce à eux, des gens qui ont fini par réunir 10 000 personnes dans la rue en 81 et 15 000 cette année, que cette abrogation a eu lieu aujourd'hui. Pour nous c'est vraiment une grande joie.
Le 4 août 1982, la loi est publiée. Le 4 août. Tout un symbole républicain qui marque la fin d'une année fructueuse pour les homosexuels en France. L'égalité républicaine et le refus des différences sont établis du moins pour l'individu. C'est le temps des nuits fauves, c'est le temps des fêtes. Ils ne le savent pas encore, mais une terreur inconnue s'abat en silence aux États-Unis.
Do you have HIV or AIDS or SIDA? SIDA.
Aux États-Unis, le sida, le syndrome d'immunodéficience acquise, frappe surtout 3 catégories de personnes. Les homosexuels, les drogués et les haïtiens.
AIDS, AIDS, sida.
Chaque mois, je dis bien chaque mois, on en compte 165 de plus, dont 70% chez les homosexuels.
Pendant l'été 1981, la revue d'épidémiologie fédérale américaine annonce le recensement de 5 cas rares de cancer affectant des homosexuels. Bon, c'est une rumeur, inquiétante, mais une rumeur. En 1983, en revanche, elle devient un faux. Le 19 mars de cette année-là, Libération titre « L'épidémie du cancer gay ». Le sida entre dans nos vies. Face à l'inconnu, la machine médiatique s'enclenche, s'emballe même, accompagnée par la peur, les erreurs et le tumulte des mots. Même Libération, journal de gauche, porteur sain de valeurs humanistes, tombe dans le piège « cancer gay », comme si le fait d'être homosexuel sous-tendait un risque sanitaire particulier, un terrain à risque. La suite prouvera que les hétéros, eux aussi, étaient et sont menacés. Toujours est-il que la nouvelle se répand, commence 2 juillet 1983, aux 20h d'Antenne 2.
Texas, les premiers signes d'un vent de panique qui balaye l'Amérique, chez ceux qui sont supposés entrer les premiers en contact avec les malades, secouristes, ambulanciers. On prend un minimum de précautions sans très bien savoir si ça servira à quelque chose. Si j'attrape cette maladie au contact de quelqu'un, je ne sais pas si je ne vais pas la transmettre à ma famille. Ça m'inquiète beaucoup. J'ai vu des articles sur la contamination par les banques du sang. C'est très grave. Ça pourrait être un fléau. Un truc comme ça pourrait tuer des tas de gens et contaminer toute la population. La panique à Cleveland, dans l'un des plus grands centres de transfusion sanguine. En Californie, où l'on interdit dans les écoles les cours de respiration artificielle. Et à New York, où les employés des maisons funéraires refusent de toucher au corps des morts de la maladie des homosexuels.
En France, la communauté gay refuse de céder à la panique des premiers titres de journaux et elle se méfie des délires de pasteurs ou de médecins américains qui choisissent d'utiliser cette nouvelle maladie comme une arme. L'Amérique, dans ce qu'elle a de plus réactionnaire dès lors qu'elle est religieuse, se réveille, Bible à la main, elle diffuse son message dans le monde entier.
C'est un fléau, une maladie qui affecte la communauté homosexuelle et elle contamine maintenant la communauté hétérosexuelle, les enfants et les bébés. Autre exemple, ce commentaire d'un autre pasteur au cours d'une émission de radio très populaire et toujours sur le même sujet. Beaucoup d'homosexuels sont dans la restauration. Qu'est-ce qui nous prouve qu'en touchant la nourriture, ils ne transmettent pas la maladie à leurs clients? Ou encore ce commentaire d'un médecin. Si on est contre les porteurs d'une maladie, il faut les isoler, que ce soit des vaches, des singes ou des homosexuels.
Dans ce brouhaha médiatique, une seule réalité s'impose, et elle est terrible. Des anonymes, des célébrités, des leaders du mouvement homosexuel disparaissent. 11 cas de sida sont recensés en 1981, 48 en 1982, 140 en 1983, 377 en 1984, l'année où Michel Foucault, l'un des philosophes les plus brillants de notre histoire, lui aussi est emporté. Il ne pourra pas terminer son ouvrage « Histoire de la sexualité ». Au lendemain de sa mort, son compagnon Daniel Defer lance AIDS, anagramme de Sida Aide, l'une des premières associations qui lutte contre ce nouveau fléau et contre le jugement porté par la population sur la maladie, donc sur les homosexuels, puisqu'on est persuadé à l'époque que c'est leur maladie.
Do you have HIV or AIDS?
AIDS.
Or Sida?
Face aux décès qui s'accumulent, François Mitterrand et les différents gouvernements socialistes semblent ne pas mesurer l'ampleur du phénomène. Il faudra attendre la cohabitation et la nomination de Michel Barzac en 1987 au poste de ministre de la Santé pour que le sida devienne une cause nationale. Le 27 avril 1987, une première campagne de sensibilisation est lancée.
Le sida, c'est pas une épidémie, c'est une maladie qu'on peut éviter. Il se transmet seulement par les relations sexuelles et par le sang. Alors c'est facile de protéger ceux qu'on aime. Il suffit de s'informer. Il passera pas par moi.
La ministre innove, elle lève l'interdiction des publicités sur les préservatifs et autorise la vente de seringues. En 1987, on recense 2213 cas et ils concernent aussi, on le sait maintenant, les hétérosexuels. Face à l'épidémie, l'information a encore du mal à briser le silence. Certains politiques contribuent d'ailleurs à cette désinformation qui colle à la peau du sida. L'une des déclarations les plus célèbres dans le genre est celle de Jean-Marie Le Pen sur le plateau de l'Heure de Vérité, qui, dans un de ses numéros médiatiques habituels, qualifie les malades du sida de sida-hic, contagieux selon lui, par la transpiration, les larmes, la salive, le contact, bref, une espèce de lépreux. Face à la rumeur, les associations et les élus de droite comme de gauche font face. Écoutons l'échange entre la ministre de la Santé, Michel Barzac, et l'un des députés du Front National, François Bachelot, en mai 1987.
J'affirme solennellement que Jean-Marie Le Pen n'a pas exagéré les chiffres et que Jean-Marie Le Pen n'a dit aucune contre-vérité.
Que vous participiez à la mise en place d'une telle désinformation, monsieur Bachelot, c'est indigne, indigne de la déontologie pour laquelle vous avez prêté serment. Non, monsieur Bachelot, la chasse à ce que vous avez appelé les sidaïques, et ce terme est teinté des relents de notre histoire la plus tragique, cette chasse n'est pas ouverte. Je sais bien que pour vous et pour vos amis, on résout toujours tous les problèmes de la même façon, en désignant des boucs émissaires à la vindicte populaire. Hier, les émigrés, aujourd'hui, les malades du sida. Qui demain? Oui, monsieur Bachelot, oui, monsieur Le Pen, le sida fait peur, mais vous me faites encore plus peur par vos outrances et par votre démagogie.
Le sida restructure alors le militantisme et la représentation de la communauté nationale. L'émotion provoquée par la mort, les corps malades, balafrés, disloqués, le deuil sont partagés par la nation. Le sida cesse d'être une préoccupation homosexuelle, il devient une préoccupation collective. Parmi la liste des personnes emportées par la maladie, c'est aussi des vies amoureuses qu'on efface du jour au lendemain. Et à la mort de sa compagne ou de son compagnon, le couple homosexuel est alors victime d'un vide juridique et parfois de l'incompréhension des familles des défunts. Double peine. Ne pouvant se marier, les homosexuels ne sont pas considérés en droit comme un véritable couple lorsqu'ils s'unissent. Le sida met en lumière la source d'une nouvelle injustice pour les homosexuels, comme la non-utilisation de la couverture sociale de leur amant, le transfert du bail, la limite du droit de visite à l'hôpital. Face à ces problèmes graves, des associations comme Collectif, lancé par le militant gay Jean-Paul Pouliquen, et des députés de gauche, parmi lesquels Jean-Pierre Michel et Jean-Yves Autexier, ces associations écrivent une proposition de loi pour permettre la reconnaissance légale de tous les couples non mariés, quel que soit le sexe des partenaires. Il propose alors un contrat d'union civile, le CUC, C-U-C, en 1991, qui devient en novembre 1992 une proposition de loi. Le texte ne dépasse pas les étapes successives des lectures du Sénat et de l'Assemblée. Et l'arrivée de la droite aux législatives de 1993 sonne comme un coup d'arrêt pour cette nouvelle lutte. En 1995, le député Jean-Pierre Michel tente le coup de nouvelle fois et prend la parole à l'Assemblée pour interpeller le garde des Sceaux, Jacques Toubon, qui à l'époque se limite à la défense d'une seule partie des citoyens.
La parole est à monsieur Jean-Pierre Michel.
Je demande au gouvernement de soutenir la discussion en séance publique de la proposition de loi numéro 880 qui tente à instituer un contrat d'union civile. Les dispositions prévues par ce texte s'appliqueront également à tous les couples, qu'ils soient hétérosexuels ou homosexuels. J'ajoute...
Je vous en prie, mes chers collègues, J'ajoute
qu'à la veille de la journée nationale contre le sida, offrir un statut légal avec des droits serait un signe apprécié, alors même que le gouvernement ne tient pas ses engagements en ce qui concerne la lutte mondiale contre le sida.
La parole est à monsieur le garde des Sceaux, ministre de la Justice.
S'agissant du fond de ce que vous avez proposé, monsieur Michel, je vous le dis très clairement, le gouvernement n'est pas favorable à la discussion et à l'adoption de la proposition de loi numéro 880. Parce que, premièrement, l'ordre public s'y oppose. Et ensuite, parce que cela créerait une insécurité fondamentale pour les couples que vous voulez ainsi légaliser. Et donc, je le dis très clairement, il n'est pas question de créer le contrat d'union civile. Il est au contraire question de faire en sorte que dans ce pays, il y ait plus de mariages, il y ait plus de naissances, et ainsi que la France soit plus forte.
Aujourd'hui, Jacques Toubon est défenseur des droits de tous. Telle est sa fonction, en tout cas, depuis juillet dernier. Pour les couples homosexuels, l'espoir, à l'époque, c'est donc une prochaine victoire de la gauche. Et c'est Jacques Chirac qui, avec sa dissolution en 1997, leur donne la possibilité d'espérer. Côté sida, l'arrivée des polythérapies en 1996 annonce également des jours meilleurs ou moins durs. La seconde révolution homosexuelle est en marche.
Je tombe des nues, je suis perplexe, et me voilà dans de beaux draps. Je cède, est-ce la faute de la Bex? Si je suis tombée dans ses bras, elle me plaît.
Affaire sensible sur France Inter aujourd'hui, le long combat des homosexuels en France. En 1997, la gauche retrouve donc le pouvoir. Lionel Jospin est nommé Premier ministre. Après quelques semaines silencieuses et hésitantes sur le dossier des couples homosexuels, il soutient finalement une proposition de loi portée par deux députés socialistes, Patrick Bloche et Jean-Pierre Michel. C'est le pacte civil de solidarité. Dès l'annonce dans la presse des premières pistes du projet, la droite se cabre. Le Monde publie en avril 1998 une pétition pour, je cite, « la défense du mariage républicain », pétition portée par Michel Pinton, ancien collaborateur de Valéry Giscard d'Estaing. À l'ouverture des débats à l'Assemblée à l'automne 1998, la gauche ne se méfie pas de cette fronde qu'organise la droite contre ce texte. Et le 9 octobre 1998, contre toute attente, c'est le coup de tonnerre. À peine la discussion commencée, une motion d'irrecevabilité défendue par l'opposition est adoptée et le Pax est rejeté, faute de combattants socialistes présents dans l'hémicycle. La solidarité attendra.
L'exception d'irrecevabilité est adoptée.
C'est la première grande défaite de Lionel Jospin depuis qu'il est Premier ministre. Les autres suivront.
Malgré cet appel du Premier ministre hier soir, aujourd'hui ses troupes ne sont pas là. C'est donc pour lui un échec personnel.
C'est un échec pour la majorité qui est trop sûre d'elle. On ne peut pas gouverner un pays en s'appuyant sur l'idée qu'on a été majoritaire une fois et qu'on l'est définitivement.
Christine Boutin, députée UDF, inconnue alors du grand public, peut remercier sa Bible qu'elle exhiba en pleine séance. Son buzz a fonctionné. À gauche, c'est grise mine et tête basse. Pourquoi tant d'absence sur les bancs de la majorité? Un couac incompréhensible dont les deux principaux responsables désignés sont Jean-Marc Ayrault, président du groupe socialiste à l'Assemblée, et François Hollande, le premier secrétaire du PS à l'époque. Quelques semaines plus tard, un nouveau projet et déposait. Commence alors l'un des débats parlementaires les plus longs et les plus médiatisés de la Ve République.
France Inter, Affaires sensibles, Fabrice Drouel.
Le combat des homosexuels en France, notre invité aujourd'hui que nous retrouverons dans quelques minutes, Jean-Luc Romero, maire adjoint du 12e arrondissement de Paris, auteur du livre Homo Politicus. À l'Assemblée, la droite choisit l'obstruction plutôt que la confrontation des idées. Les députés de l'opposition se lancent dans une bataille d'amendements pour ralentir coûte que coûte le débat et prendre l'opinion publique à témoin. C'est la classique stratégie de la bataille de tranchées parlementaires. Pas moins de 1174 amendements sont déposés sur ce projet de loi. Parmi les têtes de gondole de la droite, Christine Boutin, on l'a dit, députée de l'UDF et militante catholique, elle dépose pas moins de 200 amendements, elle toute seule. Le 3 novembre 1998, elle se lance dans un discours fleuve de plus de 5 heures, en pleine nuit. Pourtant, à droite, tout le monde n'est pas du même avis. Une autre femme décide d'aller au front et de faire face, elle, à la croisade de sa famille politique. Cette députée, c'est Roselyne Bachelot. Écoutons-la.
Le texte qui nous est proposé aujourd'hui est certes perfectible ô combien, mérite d'être éclairé, approfondi et prolongé, mais il correspond aux critères que j'avais fixés. Une entité nouvelle de solidarité large, différente nettement du mariage et ne constituant pas une structure d'accueil de l'enfant. Enfin, et pour lever toute ambiguïté, je réponds à la question. Le pacte de solidarité a-t-il pour origine une revendication portée par des associations homosexuelles ? Eh bien, oui, bien sûr. Mais qui mieux que des homosexuels pouvait, à partir de leur expérience de solitude, de rejet, de mépris, faire le diagnostic des difficultés qui rongent notre société ? Ils et elles ne veulent ni le dégoût des saintes nitouches, ni la commisération des dames patronesses. Cela a été l'honneur de ces associations, de faire des préconisations qui refusaient les solutions communautaristes, forcément stigmatisantes, pour bâtir un projet où chacun et chacune d'entre nous pourra se retrouver, lui, ses enfants, ses parents, à un moment ou à l'autre de sa vie, car finalement nous ne reconnaissons ici qu'une communauté, la République.
Pendant de nombreuses semaines, la tension est palpable sur les bancs des députés et dans les couloirs de l'Assemblée. Chaque séance est ponctuée de cris, de claquements de casiers et de suspensions de séance. Le Premier ministre est pris à partie à plusieurs reprises. Et puis un jour de décembre 1998, toujours, il critique de façon virulente Christine Boutin, la qualifiant de marginale. Elle sort en larmes. L'image fait le tour des rédactions. À la sortie de la séance, elle contre-attaque et appelle à une manifestation. Depuis le début des discussions, chaque jour, on parle du PACS. Chaque structure religieuse s'active en coulisses et dans les médias pour s'y opposer. Le rabbin Joseph Citruc estime que le PACS est dangereux pour la France. Le pape Jean-Paul II condamne toute forme d'union en dehors du mariage. La première dame de France, Bernadette Chirac, s'oppose elle aussi à ce qu'elle appelle la banalisation du couple homosexuel. Le 31 janvier, la droite mobilise 100 000 personnes dans les rues de Paris.
En mariée, des belles, en passé, des poubelles, quand tous les jeunes se mettent à danser, c'est pour la France qui va s'emballer.
La machine anti-pax est une machine bien huilée, car podium avec musique techno, slogan du style « ça ne paxera pas par moi », on évite de mettre en valeur des manifestants comme ce monsieur.
Bah c'est la décadence des mœurs complètement.
Non, l'accent est mis sur la jeunesse, des milliers de jeunes avec t-shirt orange, génération anti-pax, comme Bénédicte.
Les jeunes sont contre le PACS, moi je suis là pour ça, j'ai 19 ans, j'ai tout l'avenir devant moi, j'ai pas envie de vivre dans une société complètement déstabilisée. Déjà qu'on a le chômage, on a les divorces, etc. On rajoute le PACS, ce sera encore pire après.
Pas de récupération politique, Boutin, Maigret ou De Villiers sont priés de se faire discret. Au premier rang du cortège, aux côtés des représentants catholiques et protestants, Amlaoui Mekachera, le président du Conseil représentatif des musulmans de France, lui aussi exige le retrait du texte.
C'est une question de conscience de chacun de nous. La famille, ça fait partie de l'essentiel pour un homme.
Est-ce que ça vous ne gêne pas de défiler aux côtés des Front National ?
Non, le Front National n'a pas été invité. Il est là, on ne peut pas empêcher les gens de marcher dans la rue. Mais il n'est absolument pas avec nous et on n'a rien à voir avec ces gens-là.
À l'arrivée, deux images fortes, Christine Boutin portée par la foule en fin de cortège et un seau d'eau versé de rage par une Parisienne en colère du haut de son balcon, sa façon à elle de dire non aux antipax.
Quelques mois plus tard, la Gay Pride accueille plus de 200 000 personnes. Voilà pour la rue. Et le débat se poursuit à l'Assemblée et en dehors, sur les plateaux de télé, à la radio et dans les familles. Deux générations se font face. Le 13 octobre 1999, c'est jour de vote à l'Assemblée.
Je vais donc maintenant mettre aux voix l'ensemble de la proposition de loi relative au pacte civil de solidarité. Le scrutin est ouvert. Le scrutin est clos. Voilà le résultat du scrutin sur l'ensemble. Nombre de votants, 568. Suffrage exprimé, 564. Majorité absolue, 283. Pour, 315. Contre, 249. L'Assemblée nationale a adopté la loi sur le pacte. La séance est levée.
Une loi qui aura permis la reconnaissance de l'union de deux personnes du même sexe. Quelque chose de symbolique vient de se briser à l'Assemblée nationale, comme lorsque 20 ans plus tôt, une assemblée de gauche déjà avait dépénalisé l'homosexualité. En 2000, un an après ce vote à l'Assemblée, près de 70% des Français se disent favorables au Pax. En 2012, 160 200 contrats ont été conclus, dont 7 000 environ entre personnes du même sexe. La victoire du Pax est totale et partagée. Dans le même temps, et même si cela déplaît à certains, la courbe démographique de la France ne s'est pas interrompue. En 1998, au début du débat sur le Pax, on comptait 767 906 naissances en France. En 2012, on en recense plus de 821 047. L'adoption du Pax est la première étape d'un autre combat pour les homosexuels. Il sera tout aussi passionné. Il est initié un jour de juin 2004 quand le député vert Noël Mamère, par ailleurs maire de Bègles, Marie-Stéphane Chapin, un aide-soignant de 33 ans, et Bertrand Charpentier, un magasinier de 31 ans. Cette initiative ouvre une autre marche vers l'Assemblée, celle du mariage pour tous, donc y compris pour les homosexuels, loi votée par un gouvernement de gauche.
J'habite seul avec maman dans un très vieil appartement, rue Sarrazade. J'ai pour me tenir compagnie une tortue de canarie et une chatte pour laisser maman reposer. Très souvent, je fais le marché et la cuisine. Je range, je lave, j'essuie. À l'occasion, je pique aussi à la machine. Le travail ne me fait pas peur. Je suis un peu décorateur, un peu styliste. Mais mon vrai métier, c'est la nuit que je l'exerce travesti. Je suis artiste. J'ai un numéro très spécial qui finit en nu intégral après striptease. Et dans la salle, je vois que les mâles n'en croient pas leurs yeux. Je suis un homo, comme ils disent. À l'heure où naît un jour nouveau, je rentre retrouver mon lot de solitude. J'ôte mes cils et mes cheveux comme un pauvre clown malheureux de lassitude. Je me couche mais ne dors pas. Je pense à mes amours sans joie, si dérisoire. À ce garçon beau comme un dieu qui sans rien faire a mis le feu à ma mémoire. Ma bouche n'osera jamais lui avouer mon doux secret, mon tendre drame. Car l'objet de tous mes tourments passe le plus clair de son temps au lit des femmes. Nul n'a le droit en vérité de me blâmer, de me juger. Et je précise que c'est bien la nature qui est seule responsable si je suis un homme, comme il dit.
Bonjour Jean-Luc Romero.
Bonjour.
Alors je précise que votre livre Homo Politicus, dont on a parlé plusieurs fois dans le récit, a donné lieu à un documentaire diffusé en 2012 sur LCP, qui est maintenant dans le catalogue de l'INA, notre partenaire, que le livre est toujours en vente, hein, et dans une version actualisée qui prend en compte le mariage pour tous, et c'est toujours aux éditions La Cerisée. Voilà, parce que là tout est juste.
Oui, tout est juste.
Bien, alors en 98, à l'époque du débat parlementaire sur le PAX, vous étiez l'assistant du député RPR et ancien ministre des Sports, Guy Drut, c'est bien ça?
Oui, tout à fait.
Quelle était l'ambiance dans les couloirs de l'Assemblée à l'annonce de la volonté du gouvernement de lancer le PAX? Comment vous avez vécu ces années-là, vous?
Bon, moi, d'une manière un peu terrible, parce que je faisais partie du collectif pour le PAX, et donc à l'époque, j'étais au RPR, extrêmement minoritaire sur cette question, et hormis Roselyne Bachelot, dans lequel j'allais régulièrement m'enfermer dans le bureau, il n'y avait pas beaucoup d'assistants parlementaires et de parlementaires du camp politique dans lequel j'étais, qui étaient favorables, et j'entendais des horreurs, et c'était assez difficile à vivre à l'époque.
J'imagine. Alors, le PACS, rappelons-le, il est pour les hétérosexuels également,
oui,
hétérosexuels et homosexuels. Mmh. Il y a une bonne proportion.
Universel, voilà,
hein. Une bonne proportion d'homosexuels en ont profité au sens premier du mot. Ils ont bien eu raison. Hein. Ça a été vraiment une première victoire pour les homosexuels, le PACS.
Bah, c'est la deuxième, si vous l'avez bien
même
expliqué
la deuxième,
tout
oui,
à l'heure.
Oui.
Parce que la première, c'était la dépénalisation de l'homosexualité et aussi ce qui était quand même extrêmement virulent, le fait que ce soit une maladie mentale. Et c'est vrai que l'arrivée de François Mitterrand a fait que quasiment tout de suite après son arrivée, on a supprimé là. Imaginez quand même, maladie mentale, c'est quand même un peu incroyable. Et c'est vrai que la première bataille a quand même été très difficile. Vous avez raconté ces trois batailles, mais il y a quand même quelque chose qui est incroyable, que ce soit la dépénalisation, que ce soit le PAX ou que ce soit récemment le mariage pour tous, ça a mis un an à chaque fois de débat. Et à chaque fois, des débats qui ont été virulents. Alors, encore plus maintenant, parce que pour le mariage pour tous, parce qu'aujourd'hui on a les réseaux sociaux qui à mon avis ont rajouté beaucoup à tout ça, mais n'oublions pas que les trois grands débats qui ont eu lieu sous la Ve République autour de la question de l'homosexualité ont été des débats d'une violence incroyable.
Oui, mais au moins il y a eu débat, contrairement aux problèmes économiques et sociaux, où on n'a plus de marge de manœuvre. Là, la sphère politique, elle peut, et la sphère civile, hein, politique et civile, peut prendre des décisions, peut peser sur le débat. Ça quand même, c'est rassurant.
Oui, c'est rassurant, même si malheureusement, ils ne vont jamais aussi loin qu'ils le devraient. Ils sont toujours un petit peu timorés sur ces questions-là. On sent bien qu'il y a quand même un espèce de malaise de la classe politique dès qu'on parle de sexualité et encore plus d'homosexualité.
Alors, il y a eu la stratégie de l'outing. Donc Bertrand Delanoë, c'était en 1983, il a dit, voilà, je suis homosexuel. J'entends d'un outing, moi, aveu. Puis j'entends dans aveu, faute. Mais en quoi y a-t-il une faute à être homosexuel? Et pourquoi y a, à ce moment-là, on pourrait faire un outing hétérosexuel? Jamais personne ne dit, j'ai quelque chose à vous dire, au fait, je suis hétérosexuel. Bon, pourquoi dire je suis homosexuel comme si on avouait quelque chose? Il n'y a rien à avouer.
Non, mais à l'époque, je pense que, et notamment le coming out de Bertrand Delanoë, le fait
qu'il
ait dit...
Ça a aidé?
Ça a aidé énormément, parce qu'il était à quelques mois de se lancer dans l'élection municipale pour Paris, et c'était extrêmement important. Il y avait très peu d'hommes politiques qui avaient dit leur homosexualité, à part André Labarrère. Et donc il était ça a été un symbole. D'ailleurs, même aujourd'hui, il y a quoi, une trentaine ou 35 hommes ou femmes politiques qui ont dit leur homosexualité, alors qu'il y a 500 000 élus en France. Alors,
mais pourquoi faudrait-il qu'ils le disent? On va pas les juger. Le fait qu'ils soient homosexuels ou hétérosexuels, on s'en fiche. Ce qu'on demande, c'est qu'ils soient compétents là où ils sont,
bien sûr.
Alors pourquoi?
Mais en même temps, on voit que ça fait avancer les choses, parce que beaucoup sont complètement planqués et malheureux de l'être. vous savez, les hétérosexuels, ils n'ont pas besoin de le dire, mais ils le montrent. Ils vont avec leurs femmes ou voilà, dans les manifestations et puis ils la montrent, leur hétérosexualité, dans les magazines, etc. On pourrait en citer un certain nombre de personnes qui font ça. Mmh. Et je crois qu'à un moment, enfin, des gens comme Bertrand Delanoë, en tout cas, ont fait vraiment beaucoup avancer les choses en disant qu'ils étaient homosexuels, comme à une autre époque, quand Franck Riester l'a fait quelques années plus tard.
Alors, on va reprendre notre discussion, Jean-Luc Romero. Notre reporter, Gaylor Van Wimersch, est allé à la rencontre d'Antoine Idier. C'est un sociologue à l'université de Picardie. Et il revient avec notre reporter, Antoine Idier, sur la manif pour tous de 2013, après la loi sur le mariage homosexuel. Et lui, il appelle ça la nouvelle révolution conservatrice. Réécoutons attentivement les propos qui ont été tenus, qui ont été dits pendant ce mouvement.
Papa, 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 papa.
Maman, papa, maman, papa.
Bonjour.
Enchanté.
Antoine Idier, sociologue à l'Université d'Amiens, et j'ai publié en 2013 Les Alinéas au placard, une histoire de l'abrogation du délit d'homosexualité en France au début des années 1980. Ce qui me semble frappant quand on compare 1982 à 2012 ou 2014, c'est de voir que les réactions n'ont pas du tout été les mêmes et la loi dite du mariage pour tous a suscité de la violence et des réactions que la dépénalisation n'avait pas suscité. Il y a une phrase très belle de Didier Ribon dans son livre Réflexion sur la question gay, qui est « Au commencement, il y avait l'injure ». Et Didier Ribon montre que l'homosexuel, c'est celui qui sait qu'à tout moment, il peut être confronté à l'injure, d'une forme de rappel à l'ordre en raison de sa sexualité. Et ce qui s'est passé avec la Manif pour tous, ça a été un déferlement de propos homophobes, de propos réactionnaires, de dire à des personnes qui vivent, et notamment des personnes qui ont des familles, des couples de lesbiennes ou des couples d'homosexuels qui élèvent des enfants, de leur dire finalement la manière dont vous vivez n'est pas normale. Et c'était véritablement vécu comme un moment de violence, de rappel que vous êtes hors la norme, que vous n'avez pas le droit d'exister et que vous ne devriez pas vivre comme vous êtes en train de vivre.
Homme, femme, égal, enfant. Ça a toujours été comme ça et ça ne changera pas.
Et cette loi, elle ne respecte pas la dignité humaine.
L'État n'a pas à participer à la normalisation de l'homosexualité.
Je ne blâme pas. Mais ça n'est pas naturel, et c'est une déviance.
La légalisation du mariage homosexuel, l'adoption et la porte ouverte à d'autres revendications, comme la légalisation de l'inceste.
Dans tous ces arguments, on voit bien comment a lieu la défense d'un ordre sexuel particulier, qui est l'ordre hétérosexuel, fondé sur une définition très stricte de la famille, qui ignore des formes de parenté très multiples, et depuis très longtemps, ça ne date pas des années 2000, ça ne date pas des années 90, tout au long du XXe siècle, et même avant, on peut trouver des formes de famille qui diffèrent de cette norme-là. Et ce qui a été vraiment frappant, c'est de voir comment l'Église catholique a utilisé les outils de la psychanalyse, notamment, et de la psychanalyse la plus réactionnaire, avec cette idée d'un ordre symbolique qui serait vraiment le soubassement de notre ordre social. Et à partir du moment où cet ordre symbolique est mis à mal, c'est tout l'ordre social qui s'écroule et toute la société qui court à sa perte.
Je ne vois pas en quoi la représentation nationale doit s'intéresser à une aberration anthropologique.
Christian Vanesse.
Vous savez, il n'y a que deux sexes. Il y a les hommes, il y a les femmes.
Député UMP.
Et la société doit assurer sa pérennité par le mariage des hommes et des femmes, notamment en vue de procréer, d'avoir des enfants et de les élever. Et tout ce qui s'écarte de ce bon sens est évidemment une aberration anthropologique.
La classe politique a une très grande responsabilité. C'est assez frappant de voir que, par exemple, l'UMP s'est engouffré dans la manif pour tous, sans doute à la fois par affinité avec un grand nombre de thèmes et aussi par volonté stratégique de récupérer ces forces-là en les instrumentalisant et en même temps en leur donnant un espace politique, des moyens d'existence, une audience qu'ils n'auraient pas eu si l'UMP n'avait pas fait cela. Et donc de la même manière que le PS a une responsabilité en étant frileux, réservé, en faisant part de ses hésitations, la droite et l'UMP ont évidemment aussi une responsabilité de la manière dont elle a légitimé ses propos.
Thierry Mariani, député UMP.
Je n'ai pas l'impression qu'on a égratigné la communauté homosexuelle. Égratigner quelqu'un, ce n'est pas forcément lui dire tout ce qu'il a envie qu'on lui dise.
Pas parce que je ne suis pas homophobe qu'il faut que j'organise des gay prides. Quel sens ça ?
Patrick Ollier.
La gay pride est telle qu'elle est organisée.
Député UMP.
C'est une déviance de l'homosexualité.
J'ai beaucoup de respect pour les homosexuels.
Alain Moïne-Bressant.
Quel qu'il soit par ailleurs, ça fait partie de la vie et je ne leur en veux pas.
Député UMP.
Mais chacun chez soi.
Il s'avère que là, des propos ont été tenus ces derniers mois qui ne pouvaient pas être tenus il y a quelques années. De même qu'aujourd'hui prolifèrent des propos racistes, des propos antisémites, des propos islamophobes. Et c'est parce que des gens, des intellectuels ou des partis politiques participent à une entreprise de légitimation de ces propos en décalant les limites de ce qui est acceptable ou ce qui n'est pas acceptable, ce qui est dissible ou ce qui n'est pas dissible. Et donc tout ça produit un glissement général vers la droite et l'extrême droite. Le paysage politique a beaucoup évolué et qu'il y a eu une forme de révolution conservatrice depuis les années 1980. Donc oui, c'est évidemment un recul. Oui. Et c'est aussi en ça que la Manif pour tous et tous ceux qui gravitaient autour doivent être aujourd'hui condamnés. C'est précisément qu'ils ont réapporté cette violence dans la chair de personnes individuelles en rendant leur vie plus difficile. Papa, 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 papa.
Maman, papa, maman, papa.
Jean-Luc Romero, le récit l'a montré, on a fait des progrès. Et heureusement, il y a eu des vrais progrès. Et en même temps, il y a toujours une norme hétérosexuelle, comme on vient de l'entendre, il l'a expliqué brillamment ce sociologue, comme si ce pays était entre, sur ces thématiques-là, entre révolution et réaction. Aussi entre les deux. Qu'est-ce qu'il faut faire de plus maintenant? Quelles sont les prochaines étapes? Parce que tout n'est pas réglé.
Non, tout n'est pas réglé, mais il faut quand même dire que la société globalement a progressé. Oui. Quand on regarde les études que faisait Le Monde sur l'acceptation de l'homosexualité dans les années 80 et les études aujourd'hui, on voit qu'aujourd'hui, l'immense majorité de la population n'est pas homophobe. Et malheureusement, il y a une partie qui s'est radicalisée. Et le mariage pour tous a été un moment pour certains de se radicaliser. Les mêmes qui se radicalisaient avant, parce que moi je crois que ça n'a pas changé. Ce que je vous dis, quand on regarde l'histoire, j'avais même oublié 1960, vous savez, quand il y avait un député gaulliste qui classait l'homosexualité dans les fléaux sociaux. Donc on a eu quand même beaucoup de débats après sur la maladie dans les années, la maladie psychiatrique dans les années 68. On a toujours eu, en tout cas, et l'opposition de droite a toujours été extrêmement virulente, a toujours tenu les mêmes propos et a toujours eu la même stratégie. Il n'a tiré aucune leçon des précédentes décennies sur cette question-là. Maintenant, voilà, il y a une partie de la société qui est arc-boutée sur un modèle qui n'existe plus. Et on le voit aujourd'hui. Vous savez, quand vous avez tous ces débats autour de l'adoption, autour de la famille homoparentale, mais ces gens-là, est-ce qu'ils se rendent compte que elles existent depuis longtemps, ces familles? Il y a des milliers d'enfants qui vivent dans des familles homosexuelles bien avant le mariage pour tous, bien avant le PACS. Et on a l'impression qu'ils s'accrochent à une société qui n'existe plus, et puis avec un phénomène qui est quand même assez incroyable. Quand on a vu les manifestations pour tous, c'est quand même la première fois que des hommes et des femmes, comme au moment du PACS, se mobilisent non pas pour garder des droits qu'ils ont, mais pour empêcher d'autres d'avoir les mêmes droits qu'eux. Et en cela, c'est absolument incroyable. Et ce relais qu'ils ont eu, c'est aussi cette société qu'on est aujourd'hui. Il n'y avait pas, par exemple, au moment du PACS ou en 81, les réseaux sociaux. Il n'y avait pas des chaînes d'information en permanence qui diffusaient à longueur de temps. Et ça a donné une ampleur, cette fois-ci, et qui a permis à certains qui, avant, n'auraient pas osé, parce qu'ils n'avaient pas de lieu pour faire des choses anonymes, par exemple, sur les réseaux sociaux, cette homophobie qu'on a vue pendant le mariage pour tous, c'est vrai qu'elle ne pouvait pas se diffuser de la même manière avant. Là, il y a des gens qui, d'un seul coup, ont fait des choses anonymement et se sont rendus compte qu'il y avait d'autres gens qui pensaient la même chose qu'eux. Et ça les a renforcés et ça a donné cette force à ce mouvement, à cette manif qui, d'ailleurs, aujourd'hui, continue à manifester, ce qui est aussi incroyable. La loi est passée et on essaye de trouver d'autres fantasmes avec la PMA, avec la GPA. Alors oui, le boulot aujourd'hui, c'est d'abord de continuer à lutter contre l'homophobie, comme il faut lutter toujours contre le racisme, l'antisémitisme et le sexisme. Et puis, il faut rappeler que l'égalité, aujourd'hui, elle n'est pas encore réelle et qu'il faut continuer cette marche vers l'égalité. Et la PMA, la procréation médicalement assistée, doit être étendue aux lesbiennes. Et ça, c'est un des combats que doivent encore mener les militants aujourd'hui.
Alors, 1981, grande année pour le combat des homosexuels avec la dépénalisation. Ouais. Et à l'époque, alors on écoutait, parce que le concept de l'émission, on passe un disque qu'on écoutait beaucoup à l'époque, cette année-là, l'année de référence, 81 pour notre histoire. Soft Cell, Tainted in Love. Jean-Luc Romero, l'homosexualité est-elle aujourd'hui une force politique? Et d'ailleurs, doit-elle être une force politique en tant que telle?
Je pense pas que ce soit vraiment une force politique. D'ailleurs, si elle en avait été une, on aurait fait partie des premiers pays qui auraient eu le mariage pour tous. Je rappelle qu'avant nous, il y a quand même eu 13 autres pays, dont l'Espagne, qui ont adopté, dont l'Afrique du Sud, etc. Il y a un mouvement qui s'est construit, c'est vrai, mais il y a beaucoup de fantasmes autour de ce mouvement. Quand on a entendu parler de ce fameux lobby homosexuel, qu'on oui. a droit, les magazines tous les ans nous font un point sur ce fameux lobby, bah, il n'est pas si puissant que ça dans notre pays. Voilà, il y a simplement des gens qui à un moment se sont levés, parce qu'ils voulaient avoir des droits comme les autres. Je pense que l'épidémie de sida a aussi fait qu'à cette époque-là, dans les années 80, beaucoup se sont aussi levés parce qu'il y avait tellement d'injustices autour de tout ça qu'on ne pouvait pas rester les bras ballants et regarder les gens mourir sans droit, voir des gens être virés de leur appartement quand leur compagnon était mort, voir des gens n'avoir même pas le droit de rester dans la chambre de leur compagnon avec qui ils avaient vécu des années. Eh bien oui, à ce moment-là, il a fallu que la communauté se lève. Et je crois que le sida a été notamment un élément pour nous faire nous lever.
Alors, comment éviter maintenant, vous parlez de communauté, effectivement, et on comprend, c'est tout à fait légitime, comment ne pas verser dans le communautarisme? Car il y a quelquefois des débordements, des tentations de communautarisme dans un pays qui cherche justement à les combattre et à retrouver le sens de l'intérêt général.
Moi, je crois qu'en France, le combat a quand même été un vrai combat républicain. Il a d'abord été un combat universel avec le Pax, puisque le Pax était ouvert aux homosexuels et aux hétérosexuels. Et le débat qu'il y a eu sur le mariage pour tous, voilà, pour tous. C'est-à-dire que ce n'était pas un mariage spécialement pour les homosexuels. Et je pense qu'on n'est pas tombé dans ce travail en France. Et d'ailleurs, les homosexuels ne vivent pas entre eux, etc. D'ailleurs, les quartiers qu'on dit homosexuels, où il y a un certain nombre de boutiques... Et puis, en plus, le sont de moins en moins, puisqu'aujourd'hui, tous ces endroits sont des endroits qui sont ouverts aussi bien aux hommes, aux femmes et aux hétérosexuels.
Mixtes, voilà.
Donc les choses ont beaucoup évolué. Je crois qu'on n'est pas tombé dans cette dérive qu'on aurait pu avoir en France.
Bien, juste un petit mot sur un film américain dont vous me parliez, produit par la chaîne HBO, The Normal Heart.
Hein, oui.
Celui-là, vous dites qu'il faudrait le passer. Quoi, ça.
Oui, un très beau film, en tout cas pour les plus jeunes. Oui. 80 à 83, la mobilisation de la communauté gay pour le VIH quand ils sont seuls, sans pouvoir public, aucun homme politique n'en parle. Et je pense que c'est un film à voir pour comprendre.
Ça sera le mot de la fin, il me reste à vous remercier, Jean-Luc Romero. Au revoir, à bientôt. C'était Affaires Sensibles, aujourd'hui la longue marche des homosexuels pour leurs droits en France. Merci aux documentalistes de Radio France, une émission que vous pouvez réécouter en podcast sur franceinter.fr. Rendez-vous également sur la page Facebook d'Affaires Sensibles. Demain, vendredi, ce sera donc la fiction autour du vulcanologue Haroun Tazieff.